Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Stéphane Christophe, directeur des services techniques de la municipalité de Die, qui est venu nous parler de deux sujets. Le premier, l'achèvement de la première tranche des travaux concernant l'approvisionnement en eau à partir du captage de Railly. Et le deuxième sujet, sur la fin aussi des travaux concernant la rue du Chastel, à savoir les travaux de voirie, l'eau et l'assainissement. Monsieur Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors donc, ça c'est des travaux qui vous tenaient à cœur et qui étaient en cours depuis un bout de temps, non ?
Oui, c'est deux beaux petits chantiers, enfin deux gros chantiers même, on pourrait dire, qui ont mis un certain temps à aboutir. Et je pense notamment au recaptage de la source de Railly, où on a eu beaucoup d'études qui débouchaient pas forcément sur des travaux. Et là, enfin, on peut annoncer au DIWA que le captage de Railly est opérationnel. Donc beaucoup d'intérêt à ce captage, hein. On avait des gros soucis en période d'étiage d'été, à savoir que notre ancien captage présentait des déficiences, hein. On n'était plus capable d'alimenter la ville. Un tout petit rappel, la source de Railly alimente 80 à 90% de la ville de Die. Donc quand cette eau, en période de septembre à octobre, baisse énormément, on n'était plus capable et en capacité d'alimenter la ville. Donc on était obligé de faire appel à un captage complémentaire qui est le captage de Chamarge, donc où on capte dans la nappe de la Drôme avec des histoires de pompes, de consommation d'énergie, etc. Alors que le captage de Railly, on est en pleine montagne, hein, donc je le rappelle, c'est au-dessus de la ville de Romeyer, où on capte une résurgence d'eau qui sort d'une grotte et à partir de là, on l'achemine jusqu'à la ville.
Le captage de Railly n'existait pas auparavant, c'est tout neuf alors en fait.
Alors il existe depuis très très longtemps, hein, depuis l'époque romaine, ce captage, et il existait au pied d'une falaise, un petit peu en aval de ce qu'on a créé aujourd'hui, à savoir que la résurgence se fait dans une grotte. Et elle suit, je dirais, des espèces de petites canalisations qui se sont créées avec le temps dans des sols karstiques, hein, donc c'est des sols calcaires où l'eau ravine petit à petit. Et elle ressortait, je dirais, 200 mètres plus bas, dans l'ancien captage qui était au pied d'une falaise. Donc ce vieux captage présentait beaucoup de soucis, déjà en termes de sécurité, j'irais sanitaire, parce que du fait qu'il résurgit un peu plus loin, on passait par des parties aériennes, donc avec des risques de contamination par des animaux, etc. Et deuxièmement, par des risques d'éboulement de la falaise, puisqu'il était au pied, et à tout moment, on pouvait avoir la falaise qui est de très mauvaise qualité, et pouvait emmener notre captage, avec des grosses problématiques après d'approvisionnement et de gestion de l'eau. Et donc l'idée qui a germé, alors il y a eu beaucoup d'idées au départ, hein, de ce projet, mais l'idée qui a germé, c'est de remonter, je dirais, 200 mètres en amont et se positionner directement sur la résurgence de l'eau, donc dans une grotte. Donc des gros travaux donc, ont été exécutés par l'entreprise Lyotard, hein, qui a fait un travail, d'exception, hein, parce qu'on est vraiment en milieu très difficile, surtout dans une grotte ou avec des risques d'éboulement, etc. Il y a eu également un travail de l'entreprise Cannes qui a sécurisé tous les accès, au-dessus de la grotte, hein, parce qu'il y a aussi un petit peu de falaise. Donc on a amené des filets par hélicoptère, des choses un petit peu compliquées. Et puis après, donc, de l'entreprise de maçonnerie, Chafois à Châtillon, qui a exécuté donc, le dessableur, donc un bel ouvrage en maçonnerie, donc un réservoir qui est destiné à recueillir tous les éléments en suspension dans l'eau pour enlever tous les grains de sable, etc. Voilà. Donc un chantier avec également 600 mètres de canalisation qui ont été repris. Parce qu'il faut savoir qu'on est à peu près à 6-7 km de la ville et que cette canalisation est très vieillissante, voire carrément obsolète, et qu'on a des casses régulières qui posent beaucoup de soucis de gestion.
Elle datait de quand, cette canalisation ?
Des années 30. Hein, des années 30, donc c'est vrai que c'est une canalisation qui était en fonte, qui l'est encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment un produit fiable dans le temps et résistant. Mais bon, il arrive à un certain temps où il faut la remplacer. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, d'où l'idée de la première tranche. Hein. Donc, on est parti du captage, on a fait 600 mètres de canalisation et on va continuer cet effort, jusqu'à la ville. Voilà. Donc l'idée générale, c'est de réalimenter la ville à partir d'une canalisation neuve qui pourra se déverser dans un réservoir, le réservoir en tête, qui sera sur plat. Et l'idée, c'est de redesservir toute la ville en gravitaire. Créer un réservoir de 1000 m3 qui desservira toute la ville.
Un réservoir enterré ou alors une espèce de piscine ?
Ça sera enterré, hein, ça sera enterré, ça sera pas la piscine municipale. Donc l'idée hein, et la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que la conduite principale qui alimente la ville alimente également des abonnés, dont l'hôpital, pour ne pas le citer. Et ça nous pose énormément de problématiques de gestion avec les pressions à gérer. Alors que quand on arrivera sur le futur réservoir, on pourra desservir calmement tous les abonnés sans souci d'interférence avec la conduite principale.
Oui, mais venant de Romeyer, ça descend et ça va remonter sur le plat. Donc comment vous allez faire pour ces...
Tout à fait. Donc l'altitude est de 540 mètres au dessableur actuel. Et l'altitude du futur réservoir sera à 520 mètres. Donc on a 20 mètres de delta pour encaisser à peu près 5 km, ce qui est tout à fait acceptable. Alors après, il faut jouer bien sûr avec les diamètres de tuyaux, etc. Mais bon, c'est techniquement faisable.
Pas besoin de pompe, quoi.
Non, non. Tout sera gravitaire.
Vous avez dit que vous aviez fait 600 mètres de canalisation et qu'il en reste encore 7 km moins 600 mètres. Il vous en reste 6 km 400 à faire. C'est un gros chantier prévisionnel alors.
Oui, alors aujourd'hui, on est en train de livrer la deuxième tranche. Donc, c'est 1 km de canalisation supplémentaire. Donc là, on a 1 km 6. Et le reste de la canalisation à remplacer est un gros chantier, avec notamment le passage dans des propriétés privées hein, sur la commune de Romeyer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier monsieur le maire de la ville de Romeyer qui a été très facilitateur et nous a aidé énormément sur ce chantier.
Est-ce que c'est là-dessus qu'il y a ce projet de turbinage d'eau potable ?
Tout à fait. Donc, l'idée a germé. Donc, à noter également une entreprise privée, donc monsieur Barral, qui est en train de créer une conduite forcée. Donc en parallèle avec notre conduite, je dirais, d'eau potable, pour faire une micro-centrale. Donc une micro-centrale, hein, c'est créer de l'électricité à partir d'un turbinage d'eau. Voilà. Donc à partir de ça, on s'est dit, bah, pourquoi pas nous ? Alors on a commencé à creuser un petit peu la question, et notamment avec M. Biglia, maire de Romeyer, qui s'est dit, bah oui, moi j'aimerais bien aussi participer à cet effort. Et on a mutualisé nos moyens. Et l'idée, et on est en étude de faisabilité aujourd'hui, c'est de réfléchir pour turbiner notre eau à partir de la conduite d'eau potable de la ville.
Sachant qu'il y a des considérations sanitaires assez compliquées puisque l'eau potable ne doit pas être en contact avec les parties mécaniques.
Tout à fait. Donc il y a des contraintes qu'on est en train de voir avec donc l'ARS, hein, qui est l'organisme qui contrôle ce genre de problématiques. Mais a priori, les Suisses en font énormément sur de l'eau potable. Donc techniquement, il n'y a rien qui pourrait nous arrêter. Alors après, bien évidemment, il y a l'aspect financier qui est là complètement à l'étude, voir les retours un petit peu à l'investissement, ce que ça peut rapporter et coûter par rapport à l'investissement qu'on va faire.
Alors juste une petite question de bon sens. Si vous commencez à mettre des canalisations, il faudrait mettre ce turbinage sur eau potable en même temps parce que vous n'allez pas redéfoncer des canalisations pour réinstaller une installation. Tout ceci s'enchaîne naturellement ?
Oui, complètement. On l'a anticipé dès le départ de l'opération. D'ailleurs, avec la construction du dessableur qui se fait juste à la sortie de la grotte, va nous permettre de turbiner l'eau, j'irai en aval, et éviter toutes les suspensions qui pourraient abîmer l'hélice. Aujourd'hui, on va s'arrêter, donc la deuxième tranche va s'arrêter au dessableur, au niveau de la ville de Romeyer, et cette turbine serait posée à ce niveau-là. Donc la troisième tranche n'est pas encore enclenchée, donc c'est le moment, d'enclencher cette turbine. Voilà. Donc c'est complètement anticipé pour l'instant.
Alors, on va parler un petit peu gros sous. Alors, ça représente combien tous ces travaux ? C'est beaucoup ?
Alors, c'est des gros investissements. Hein. La première tranche nous a coûté, je vous dis pas de bêtises, 341 000 euros hors taxe. Hein, donc, ça, c'était la première tranche donc, pour le recaptage, avec un tuyau de fonte, ce que je disais tout à l'heure, 600 mètres, et une capacité du dessableur de 100 mètres cubes. Donc, vous voyez, des ouvrages qui sont assez conséquents. La deuxième tranche, hein, donc les 1000 mètres de tuyauterie, je vous dis ça de mémoire, mais c'est à peu près de l'ordre de 95 000 euros hors taxe.
Pour un kilomètre supplémentaire.
Pour un kilomètre supplémentaire. Et la turbine, je dirais tout la picot centrale, hein, pour l'instant est estimée à un coût d'investissement de 300 000 euros. Hein, je vous dis ça comme ça à la louche. Mais voilà, après il faut recalibrer l'entretien, la revente à ERDF. Et également l'amener du câble ERDF pour revendre cette électricité à ERDF.
Est-ce que vous avez fait des estimations de ce que ça pourrait produire en termes de kilowattheure et en termes de financiers ?
Alors, l'estimation aujourd'hui, hein, elle est très provisoire, hein, donc il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. Ça serait des retours à peu près à 30 000 euros par an, sans compter tout ce qui est, j'irais, entretien et maintenance. Donc après, il faut retirer ça, les assurances, etc., etc., enfin tout ce qui va autour. Donc aujourd'hui, on n'est pas assez avancé dans notre étude pour vous dire exactement ce que ça va rapporter aux communes.
Mais par contre, en termes de kilowattheure ?
Alors en termes de kilowattheure, alors je vous dis ça aussi de mémoire, c'est on est en dessous de 100 000 kilowattheures rendus. Donc c'est des petites consommations.
Dans cette fameuse grotte en dessous de cette falaise de Romeillé, est-ce que vous avez le droit de pomper toute l'eau qui sort de cette résurgence ?
Alors non, on est vraiment limité administrativement parlant par 162 mètres cubes. On ne peut pas dépasser cette limite. Donc on a un calibrage tout en haut dans la grotte qui nous dit on ne prend pas plus que 162 mètres cubes. Et on restitue toute l'eau après dans le milieu. Donc l'eau repart dans le ruisseau qui est capté après par M. Barral pour sa microcentrale. Et lui aussi, il a une limite administrative en termes de débit qu'il ne peut pas dépasser.
Et ça représente combien de pourcentage de l'eau qui sort ?
Oh, c'est infime, j'irais. C'est difficile à calculer les débits parce que ça sort un petit peu de partout. Donc, c'est pas un tuyau où on peut calculer véritablement les choses. Mais je serais incapable de vous dire quel pourcentage ça représente. Mais à mon avis, très, très inférieur à ce que la rivière reprend.
Dernière petite question. Alors, quand est-ce que ce projet sera définitivement bouclé et que les Diois pourront profiter de cette eau ?
Alors, aujourd'hui, ils profitent déjà cette eau hein, avec le nouveau captage. Donc ça y est, c'est effectif. Après, la nouvelle conduite de 1000 mètres qu'on parlait sur la deuxième tranche, je dirais c'est à horizon des 15 jours qui suivent. Donc ça va être aussi assez rapidement effectif. Après, le reste, j'irai sur la continuité jusqu'au futur gros réservoir de plats. Ça, c'est à horizon, je dirais, des 2 à 3 ans qui viennent. Parce que c'est vrai que c'est des gros investissements et puis il faut qu'on négocie avec les propriétaires les passages.
Très bien. Bon, on va peut-être passer maintenant au deuxième sujet, à savoir l'achèvement des travaux concernant la rue du Chastel. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce qui a présidé à ces travaux, pourquoi vous l'avez fait et quelles ont été la nature de ces travaux ?
Alors, ces travaux ont été, demandés très fortement par les riverains au départ, hein, qui, c'est vrai, avaient une rue qui se dégradait énormément et qui était une rue également de caractère et avec beaucoup de charme. Et donc l'idée est partie de là. À savoir également qu'on avait nos réseaux d'eau potable et d'assainissement qui étaient très vieillissants en dessous, avec des problématiques également d'eau pluviale qui ravinait le long des façades, etc. Donc avec des problématiques d'usure assez patentes. Et donc l'idée a été de dire on refait cette rue. Alors au départ, on est parti sur deux tranches. Donc on faisait la rue en deux fois. Et puis petit à petit, avec le travail du maître d'œuvre, hein, qui est le cabinet d'Yèdre, très très vite, on s'est dit qu'il faut traiter également la place qui est en contrebas avec la petite fontaine pour avoir une vraie continuité sur la totalité de la rue avec une esthétique appropriée. Donc on a concerté avec les habitants, on les a réunis, on en a parlé, on a dit voilà, la ville a ce projet suite à vos demandes, etc. Donc on a concerté, on en a discuté, comment ils voyaient les choses, comment ils voyaient l'esthétique de la rue, comment ils la vivaient cette rue. Et donc les objectifs qu'on avait donnés au maître d'œuvre, c'était de bien sûr garder le caractère de cette rue hein, qui est à visiter, je dirais, qui a vraiment un caractère très spécial. Elle est piétonne et ouverte aux véhicules, mais elle est tellement étroite que les véhicules s'y risquent peu. On voulait garder aussi l'esprit végétal parce que beaucoup de riverains fleurissent cette rue, ce qui est très agréable et très joli. Garder l'accès piéton parce qu'au départ, cette rue était, goudronnée sur son centre avec de la calade sur le côté. Donc garder, un accès piéton facile, notamment pour les PMR, hein, pour les personnes à mobilité réduite. Et garder également une cohérence avec le schéma global qu'on a pu avoir sur l'ensemble de la ville. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude il y a un an et demi, deux ans de ça, où on a réfléchi sur la globalité de la ville de Die, sur son centre historique, et voir quelle philosophie fallait donner sur des réflexions futures. Voilà. Donc garder ce schéma global, et bien sûr en profiter pour remplacer nos réseaux d'eau potable et d'assainissement, qui étaient complètement obsolètes.
Donc déjà, on peut dire que grâce à ces travaux, vous perdez moins d'eau dans les tuyaux.
Complètement. On a repris complètement la conduite d'eau potable et l'assainissement également. Alors c'est vrai que la problématique de ce chantier, c'est l'étroitesse de la rue, et notamment pour l'accessibilité des engins pour récupérer et refaire cette canalisation. Et la deuxième problématique, c'était de continuer d'alimenter les maisons en eau potable et l'assainissement, bien sûr, au fur et à mesure du chantier. Donc l'entreprise Grisal et Fage, hein, qui a réalisé les travaux, avec la société Drôme Agrégat qui a fait les surfaces et Calade, ont eu déjà une première phase provisoire pour alimenter les maisons. Donc ça a été un réseau aérien, donc on l'a fixé carrément sur les façades, donc des tuyaux hein, tout simples qui reprenaient les branchements existants. Et à la suite de ça, on a pu creuser et avancer petit à petit donc sur cette rue. Donc les riverains aussi ont été très facilitateurs hein, du départ de l'opération et ils ont, je pense que le résultat est à la hauteur d'un petit peu de leurs attentes.
C'est toujours des nuisances pour les riverains, ça a duré combien de temps ces travaux ?
Des travaux qui ont été terminés un petit peu avant le 14 juillet et qui étaient prévus sur 3 mois et demi. Hein, donc un chantier qui a été fait dans les délais, j'irais à une semaine près, on était dans les délais. Donc là-dessus, je félicite les entreprises qui ont garanti ce délai qui n'était pas facile au départ à tenir, qui était très serré.
Et donc le cachet de cette rue s'en est trouvé grandement amélioré ou est-ce que c'est devenu quand même plus moderne parce que c'était un côté un petit peu archaïque
Alors paradoxalement, je dirais, ça l'embellit, moi j'en suis persuadé. On lui a redonné un cachet, je dirais, un peu original, dans le sens où on a enlevé l'enrobé qui était central donc avant la réfection. Et maintenant, on est en béton désactivé au centre et de la calade sur les côtés. Donc, on a plus ce côté, comme vous dites, moderne avec du pétrole au milieu. On est vraiment dans un cachet, pierre-pierre, qui se marie très, très bien avec les façades existantes et avec la végétation qui a été replantée par les habitants.
Cette opération, elle a coûté combien et comment elle est financée par la mairie ?
Alors, l'opération a coûté 153 000 euros hors taxe, hein, je parle toujours hors taxe. Là-dessus, on a eu des aides, du SDED notamment. Donc, on a profité pour enfouir quelques réseaux et notamment des traversées de rues qui sont reprises et qu'on a passé en souterrain. Donc on a eu une aide d'à peu près de 6 000 euros de mémoire.
Alors, en tant que candidat, je ne sais pas ce que c'est qu'une traversée de rue, en fait.
Une traversée de rue, hein, c'est tout simple. Hein, c'est un câble qui traverse la rue en l'air. Voilà, il suffit de lever la tête et on voit un câble qui traverse la rue. Donc, l'idée, c'est de supprimer tous ces câbles qui sont inesthétiques et de les enfouir sous la chaussée.
Des câbles électriques ?
Électriques,
téléphoniques
téléphonique et d'éclairage public.
Et vous n'en avez pas profité pour installer la fibre optique, par exemple ?
Non, la fibre optique n'est pas encore installée, non.
Ça viendra son temps.
Oui, peut-être.
Parce que justement, une fois que vous avez mis de la calade et du béton reconstitué, est-ce que c'est possible de replonger dans les entrailles de la rue, admettant que vous ayez un problème technique avec tout d'un coup il y a une fuite dans le réseau d'assainissement. Est-ce que c'est facile de reprendre un marteau piqueur et d'aller voir en dessous ?
Non, c'est pas facile du tout. Mais au même titre qu'une réparation normale, il faut ouvrir, casser donc et reconstruire après derrière.
Oui, mais alors du goudron c'est facile. Par contre, de la pierre ?
Alors du goudron, c'est pas si facile que ça, surtout dans des rues comme ça étroites où il y a des très petites quantités. Donc c'est assez difficile. Faire du béton désactivé, c'est assez simple, surtout qu'on a une formule qui est complètement définie, donc qui refont à la demande la quantité qu'on souhaite. Donc il est vrai que c'est pas à souhaiter hein, de refaire une... Mais bon, ça arrivera dans le temps forcément qu'il y aura des casses et qu'il y aura des réparations à exécuter.
Très bien, monsieur Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions qui intéressent, je pense, un certain nombre de Diwa, puisque quand même, l'eau, c'est fondamental. Je vous remercie d'être passé et je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous.
Merci,
bonne journée.
Au revoir.
Interview.